Et sous les arbres, une émission orchestrée par Ninon. Bonjour à tous, c'est la rentrée de Bilangué sous les arbres. Désormais, Ninon toute seule aux manettes pour poursuivre cette émission. Alors, on avait prévu de vous accompagner durant tout l'été. Et puis, il n'y a pas eu de rediffusion. Ce n'est pas grave. Des rediffusions, vous en aurez à la fin de l'année pour un petit trimestre, puisque je vous abandonnerai cet hiver pour partir en voyage. Et donc, à ce moment-là, on choisira les meilleures émissions. Si vous voulez, vous pouvez même les demander. Pourquoi pas? Ça serait pas mal. Aujourd'hui, c'est Joanne qui nous accueille au studio de Keylus. Bonjour, Joanne.
Bonjour, Ninon.
Je l'ai surpris, il a le casque sur les oreilles, il est sérieux. Je vais dire aussi bonjour à notre invité du jour, qui est Frédéric Blondeau.
Mais bonjour.
Frédéric Blondeau, on le cueille sur le Causse en Haute-Saint-Antonin-Nobleval, dans un jardin.
Et oui, dans un jardin, oui, c'est pas normal.
On le cueille dans un jardin de simples et d'herbes médicinales. Ça, c'est pour la rime avec c'est pas normal.
Oui, ça marche bien, ça rime. C'est un bon début, on peut continuer.
Alors, je l'ai cueilli, Fred, sur sa route du retour des vacances par un petit texto qui disait « Et dis donc, tu voudrais pas participer à l'émission Bilangué sous les arbres, ça serait chouette, on parlerait de ton jardin. » Et il a tout de suite rappelé, il a dit « Ah oui, pourquoi pas ?» Alors, on va pas simplement parler du jardin des simples, on va parler d'abord de toi, si tu veux bien.
Eh bien, oui, je suis partant. Ça fait un certain temps que je ne suis pas allé dans une radio. Je me souviens avoir été en Mayenne, puisque je suis originaire de la Mayenne, à Radio Mayenne au début, une des premières radios France Inter, pour faire une émission comme ça. Ça fait longtemps. Je rentrais du Brésil, donc ça n'a rien à voir avec les jardins. Mais
c'était une occasion tout de même.
Ouais.
Alors toi, tu viens de Mayenne.
Ouais, la Mayenne, c'est un endroit, je ne sais pas si c'est très connu. C'est une espèce de département bâtard entre le Maine, l'Anjou, la Normandie et la Bretagne, en gros. Voilà, un département de faussonniers.
Oui, il a classé la Normandie et la Bretagne dans les départements. Ça fait hurler de rire, Joanne. Allez, on est entre Normandie et Bretagne.
Il faut ça pour faire une Mayenne.
La Mayenne totale.
Tu es né, tu me dis, à casser le Vivien Bocage.
Ouais. Non, casser le Vivien, non, pas du tout. Alors, tu t'es trompé total. C'est marqué Causser avec un O pour un A. Causser.
Alors, il y en a des qui sont rétifs à l'internet. Et quand j'ai demandé sa petite bio à Fred, il a dit « Oui, je te prépare ça, je te le mets sur le siège du camion. » Il a oublié. Du coup, j'ai eu un papier tout chiffonné, tout taché, écrit à la main, qui m'a été posté par la vraie voie postale des courriers délivrés par le facteur dans la boîte aux lettres. C'est extraordinaire. Ce qui fait que c'est pas casser le Vivien, c'est causser le Vivien. N'empêche, t'es né dans le lit de ta mère, toi.
Oui, je suis né dans le lit de ma mère. J'aurais pu naître dans le lit d'une rivière, mais c'est aussi bien de naître dans le lit de sa mère. Je suis l'aîné de la famille, donc ça se faisait encore à l'époque, quoi. Parce que mon frère, après, ça a été différent. Voilà.
C'est parce que t'es né sans crier gare, ou c'était un choix, ou c'était une habitude?
Alors là, franchement, je m'en souviens plus vraiment, tu vois.
En 1960, on est quand même déjà à l'hôpital.
Après j'y continue à l'hôpital. C'est ça. Depuis, j'aime beaucoup les hôpitaux, c'est vraiment des lieux magnifiques, bien désinfectés, propres et sans microbes. Donc.
Et alors, dans ta premier regard que tu portes sur ton environnement, c'est donc un environnement bretonno-normand.
Ouais.
Tu t'intéresses aux forêts, tu aimes ça, tu aimes la forêt, tu aimes
la
nature déjà.
Ouais, tout petit, c'était obligé, quoi. J'étais avec mon grand-père qui tenait un restaurant dans le village et puis qui avait des bœufs à 3-4 kilomètres, une petite ferme, une carriole avec des chevaux, puis on y allait par les chemins creux. À l'époque, c'était un bocage, alors c'est un espace magique pour les enfants où il y a des porches partout de verdure, des tunnels de verdure, il y a tout d'un coup, il y a des grands espaces dégagés, après c'est des tout petits prés, enfin des tas de choses avec tout plein de fleurs, tout ça au printemps. Donc forcément, c'était chouette, quoi. Et puis déjà, mon grand-père cueillait lui aussi des plantes médicinales à l'époque. La centaurée, il allait chercher de la centaurée pour sa circulation du sang.
Et alors finalement, il t'a transmis un désir d'être au plus près de la nature et puis aussi de la connaître et de pouvoir la faire rentrer dans ta vie, par exemple par le soin.
Ouais. Je ne sais pas s'il m'a transmis ça sûrement, un morceau, quoi, à chaque fois. C'est une marche. Et puis après, on monte dessus, et puis on en trouve une autre que quelqu'un d'autre nous met sous le pied, admettons.
Ouais, et peut-être qu'en cultivant son jardin, on cultive ses souvenirs.
Ouais, aussi, ouais. Voilà, ça démarre sec, là.
Attends, on va faire de la poésie, et on passe le dimanche quand même. Hein, à la radio, alors. Il faut bien ça.
Ouais, t'as raison.
Alors, tu voulais devenir garde forestier quand t'étais haut comme trois pommes. Enfin, on va dire quand t'avais 10 ans, c'est pas le chemin que t'as suivi.
Pas du tout, non. J'étais dans un... Donc, c'est une école, moi j'étais à l'école, je me souviens, en CM2, on avait un super instit, hein, et puis il nous avait emmené visiter, en fin d'année, une forêt. Et puis, à l'orée de la forêt, je me souviens de cette cabane de garde forestier qui nous avait montré les trous de blaireaux, qui nous avait expliqué comment on donnait du beurre aux chiens quand ils avaient mangé beaucoup de terre, des choses comme ça. Hein. Et moi, ça me plaisait, je me disais, tiens, si je serais garde forestier, ce serait chouette, c'est un beau métier, ça, et tout. Et puis non, pas du tout. Pas de garde forestier, on veut rien.
Dis-nous ce que t'es devenu, en première intention.
Non, c'est trop triste.
Mais non, ça n'a pas duré, tu peux y aller.
J'ai bossé dans un laboratoire d'analyse médicale. Ouais, j'ai fait des trucs de biologie, un IUT de biologie à Angers. Et donc après, j'ai commencé à travailler dans un labo, puis j'ai vu que c'était pas le truc, quoi. Ça me plaisait pas du tout. C'était trop fermé, j'ai besoin d'espace pour pouvoir respirer un peu.
Trop fermé, trop aseptisé.
Voilà. Mmh. Donc après, je me suis retrouvé instit pendant 10 ans.
Encore une fois, tu t'es fourvoyé ou pas ?
Là, c'était sympa, le métier d'instit. Hein. Entre l'animation des centres de vacances que je faisais tout l'été dans le sud de la France, et puis le métier d'instituteur, pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence. Quoi. Disons que les inspecteurs n'étaient pas très regardants. J'ai passé le dernier CAP d'instit, pour te dire. Après, c'était fini, ça n'existait plus.
Après, c'était la création des UFM et le corps de professeurs écoles.
Ouais. Formation sur le tas, et c'était bien. Une petite école dans le sud de la Mayenne, un petit village de 150 habitants. J'avais 9 élèves la première année, avec 4 cours différents. C'était super.
Ouais, toute l'école primaire réunie dans ta classe quasiment.
Comme ça, ouais. Voilà, j'y suis resté 5 ans ici, et puis j'ai changé d'école. J'ai pris une année de disponibilité. J'ai tâché de prendre ma retraite très tôt, c'est-à-dire de prendre des années de retraite. Parce que je me pensais qu'à l'âge de 40 ans, comme pas mal de personnes, des fois on se dit, tiens, est-ce qu'on dépassera les 40 ans ou pas ? Et puis, je dépassais les 40 ans.
Ouais, mais c'est l'âge où on a envie de changer, de ne pas perdre son temps, je confirme.
Oui. Ouais. Bien occupé, du théâtre, je faisais plein de trucs, c'était sympa, quoi.
Et du coup, là, t'as quitté le milieu enseignant.
Et ouais, ça fait déjà longtemps. Mais là, si tu veux, on va arriver bientôt. C'est quoi ? C'est une biographie, là, parce que, comment t'appelles ça, toi ? Un curriculum vital.
Ouais, sensible quand même, ouais, sensible. Okay, c'est sensible. Pas pour un entretien d'embauche.
Eh bien, de toute façon, tu feras rien avec moi. Je cherche pas. Et on était où, là, déjà ?
T'étais maître d'école dans un petit village.
Voilà,
Tu prenais des années de disponibilité parce que déjà, les vacances de 2 mois, ça te suffisait pas.
Non, c'est ce que j'aime pas. C'est dire que ça s'est présenté comme ça. Et après, j'ai quitté la Mayenne aussi parce que il y a eu ce remembrement en question qui est une opération de casse totale de la nature, du bocage qui a été détruit en 5 ans, à peu près, avec des énormes bulldozers. Et ils ont tout cassé. C'est-à-dire tout ce qui était, tout ce qui était la nature, le bocage magique que moi j'ai connu, en 5 ans, ça a été rasé pour faire des grandes prairies, d'où il fallait que l'agriculteur de sa ferme, à 3 kilomètres, il puisse voir ses champs, surveiller s'il n'y avait pas des ravageurs, des choses comme ça. Donc c'est devenu tout plat, la Mayenne. Avec des champs de maïs, de tournesol et tout ça. Donc je suis parti parce que j'en avais marre. J'avais plus d'espace.
D'accord, tu reconnaissais plus finalement ton chez-toi et tu dis, il est peut-être ailleurs ou alors créer ailleurs. Ouais. Un espace à créer ailleurs.
Je me suis laissé glisser jusque dans le sud de la France, sur le dos, dans les petites routes. Et puis je suis arrivé en Ariège, où je connaissais des gens, à Saint-Giron, à Massat.
Bel endroit.
Ouais. Et là, j'ai continué dans l'enseignement. On faisait des formations pour les instits avec une association qui s'appelait un groupe de recherche éducative et culturelle. Et on faisait de l'art, du mouvement, le travail par l'imaginaire, tout ça, toutes ces choses-là.
Ça existait, animations. Ça, dans la formation des instituts avant.
Exactement, oui.
Wow.
Les
c'était
animations
en Ariège,
de bibliothèque.
Hein, c'est pour ça.
Si, si. Voilà. Et puis, on faisait des animations en bibliothèque pour les enfants, les petits. J'étais avec une dame qui s'appelait Gisèle Bèche, qui a écrit des livres sur le mouvement, pour les petits, voilà. Donc c'était très bien. Et puis un jour, j'ai trouvé un petit boulot d'instit à côté de Saint-Giron, à Is.
C'est marrant. Oh,
Is. Ouais, la ville d'Is, moi qui suis originaire de Bretagne, ça veut dire quelque chose. Sauf que là, c'est avec un H, donc c'est pas pareil.
Vas-y, raconte pourquoi ça veut dire quelque chose. Moi, je suis pas originaire de Bretagne.
Is, Y-S, en Bretagne, c'est une ville qui a été enfouie par les eaux, une sorte d'Atlantide, en fait.
D'accord.
il y a eu un raz-de-marée terrible. C'est une histoire de femme encore là-dedans qui a dû donner les clés pour que son amant vienne la voir et puis la mère est entrée dans la ville parce qu'il a oublié de fermer les portes. Un imprudent.
Comme tous les amants. Voilà. Alors t'atterris là pour un petit boulot d'instit, mais ouais. C'est plus tout à fait dans une école, même avec seulement 9 élèves ou plus, t'es pas instit dans une école à ce moment-là.
Non, après je suis resté à Massat pendant 2 ans. Avant de trouver un autre boulot dans ce village 10, c'était une école un peu fermée dans les bois où les enfants étaient là en pension. Je sais pas comment ça s'appelle. Avec des enfants qui sont issus du milieu de la justice ou de la DAS. Ça allait de 8 ans à 16 ans. Donc là, c'était un autre registre beaucoup plus compliqué, quoi. Difficile. Ouais. Ça a duré 3 ans quand même. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis après, j'en ai eu un peu marre, j'ai changé.
T'as tenu parce que c'était dans les bois. On retrouve les bois quand même là.
Ah bah ouais. On retrouve les bois. C'était dans les bois. Oui. Ah ouais. Et puis après, moi je suis parti faire des formations sur les plantes médicinales. À partir de ce moment-là, je me suis dit ce que je veux faire. Après tout, c'est dans les plantes depuis tout le temps. Donc allons-y. Donc, j'ai fait une formation agricole à Nyons dans la Drôme. En plantes médicinales. Et puis après, j'ai fait.
Pour le coup, c'est toi qui es retourné à l'école.
Ouais. Ouais. Et on va voir après, dans la suite de l'histoire, comment les choses se rejoignent. Forcément, entre l'école et les plantes, il y a quelque chose qui continue.
Tu vas nous raconter ça. Moi, je peux déjà confirmer par le simple fait que je t'ai croisé quelques fois, mais la première fois où je t'ai rencontré vraiment, on va dire, c'est justement dans une autre vie où j'étais maîtresse d'école et on est venu jusqu'à ton jardin. Donc le lien entre l'école et le jardin, tu t'en souvenais pas ?
Si, bien sûr que si.
On était venu explorer la flore dans le milieu de Saint-Antonin-Nobleval et puis on avait clos notre semaine finalement par une visite de ton jardin sur le Causse et ça avait été quelque chose de merveilleux.
Ouais, un bon souvenir pour moi aussi. Ça, j'aime bien ça.
D'avoir des enfants qui courent partout dans les allées du jardin. Tu veux continuer maintenant ou alors on écoute ta première proposition musicale ?
Attends, on en est où là au niveau de...
Là, tu es en train de nous dire qu'il y a un lien entre le jardin et l'école, mais ça y est, toi, tu as quitté l'école. Tu es revenu à l'école pour faire une formation avec les plantes médicinales.
Ouais. Donc là, après, je sais pas, je peux continuer vite fait, comme ça.
Allez, vas-y.
Clôturer. C'est parce que l'époque ariégeoise, pour moi, c'était intéressant. J'ai vécu à Saint-Giron, donc j'étais là. Et puis, je me suis bien branché avec une association qui s'appelait Mille Pattes. Et puis, qui était une association culturelle, on avait un bar associatif, c'était vraiment vivant, quoi. Il y avait de l'activité. Et puis, on a acheté un château, parce que ça nous a pris comme ça. On voyait un beau château qui dépassait de la forêt, toujours, en ruine, au sommet d'une colline, à Durban-sur-Arize. Et avec un copain, on s'est dit, ça, ce sera un chouette local associatif, quand même.
Mais on est d'accord, c'était une ruine.
C'était une ruine.
Un tas de cailloux.
Ah non, avec un donjon magnifique, une chemise, quand même, avec des grosses murailles, mais tout ça en ruine. Un gros château.
Vous l'avez reconstruit ?
Eh bien, d'abord, il fallait l'acheter avant de le reconstruire.
C'est vrai.
Et comment qu'on fait ? On a organisé un concert à Saint-Giron, où on a fait venir Paco Ibáñez, Léo Ferré, et puis Jacques Higelin, tout simplement. Les trois ensemble, sur scène.
Pas n'importe qui.
Voilà. Et
on voit grand.
Et puis les sous nous ont permis d'acheter le terrain, qui n'était pas très cher. C'était de la terre agricole, 18 hectares, avec un château au sommet. Et puis après, on a organisé des chantiers de reconstruction du patrimoine, dont je m'occupais moi, pendant 5-6 ans. Donc là, c'est pareil, c'est arriver dans un site où il n'y a rien, commencer par débroussailler, dégager les murs, nettoyer, retrouver des vestiges archéologiques... etc., des grottes.
À nouveau, retrouver les traces d'un passé
le
au
temps,
château de Durban.
Ouais. C'est-à-dire, moi, mon père était horloger, donc tout ce qui est passé, histoire et tout ça, ça m'a toujours... Ça me fait tic-tac dans la tête, un peu comme ça.
Cherche la lumière au cœur du destin. Tous danse sans lasse. Un grain de sable nous invite au voyage.
Bilingue et sous les arbres, sur CFM, nous sommes avec Frédéric Blondeau.
Oui.
Tu nous dis ce qu'on vient d'écouter.
C'est bien mon nom, effectivement. Et bien là, on vient d'écouter un morceau de Francis, qui est un auteur-compositeur-interprète, Francis Varas, avec un W comme wagon. C'est tout con, mais c'est comme ça. Et donc, ben, pour l'instant, lui, il s'occupe un petit peu, on en reparlera peut-être plus tard, d'un spot musique qu'il y a à la bergerie à Saint-Antonin, là. Et donc, c'est lui, en tant que musicien... sonorisateur qui anime tous les mardis une rencontre en improvisation de musiciens. Et comme c'est un copain, je trouvais que c'était bien de lui faire passer une petite musique.
Oh, c'est super, t'as bien eu raison. En effet, on reparlera de ça. Mmh. Peut-être un tout petit peu plus tard, comme ça on va suivre encore la chronologie de ton...
Allons-y, chronologicon.
De ton existence. Et on en était à compter les pattes du mille pattes avec la reconstruction d'un château à Durban, en Ariège.
Ouais. Donc du coup, ben, on s'est retrouvé à, je crois qu'on doit être 400 propriétaires, parce qu'il y avait aussi une partie où les gens qui étaient au RSA pouvaient, en donnant, je crois, 10 francs par mois pendant un an, devenir aussi propriétaire d'une des pattes du truc. Donc on doit être 400 propriétaires. Ouais, quand il y a les réunions, il n'y avait pas 400 personnes, il ne faut pas croire. Voilà, sur le terrain, une dizaine, ça suffit pour faire avancer les choses. Donc c'était des bons moments parce qu'on a fait beaucoup de choses, des festivals écologiques internationaux, des choses comme ça qui se sont déroulées sur le site. Et puis on peut toujours aller voir le château, je pense qu'il y a toujours des habitants là-bas.
Ouais, j'étais en train de dire, ça donne super envie d'aller jusqu'à Durban pour aller voir ce que vous avez... ce que vous avez reconstruit finalement. Et puis les énergies qui s'y développent du coup, il se passe encore des choses où il y a simplement des gens qui y vivent. T'as lâché un peu tes
moi,
moins
ça près d'eux. J'y suis pas allé pendant 10 ans déjà. Donc, mais j'ai gardé les contacts là-bas. J'y passe de temps en temps maintenant. Et ouais, il y a un forgeron qui s'est installé, qui fait de la forge dans un des bastions qu'on a remis en état. Il y a toujours des chantiers tout l'été. Voilà, des chantiers de reconstruction. Après ça, au niveau des manifestations culturelles, je crois que l'association n'existe plus trop à Saint-Girons. Voilà. Mais le lieu existe toujours, bien sûr. De toute façon, un château, c'est pas difficile à démonter. Hein. On peut pas le mettre dans sa poche. Et puis...
Non, non. Et puis même quand c'est d'une ruine, finalement, il y a des gens qui s'amusent à aller remonter les pierres les unes sur les autres.
Ouais, faut être un peu fou. Mais...
Ça, bon, finalement, du coup, sur ces 18 hectares-là, avec cette ruine de château, tu t'es improvisé maçon, maçon en chantier participatif. Ouais. J'imagine que tu as profité aussi de la flore ariégeoise.
Ouais. Mais c'est là un petit peu où étant habitant dès lors dans une cabane, parce qu'il n'y avait pas d'habitation, donc pas d'eau, pas d'électricité, pas de gaz, etc., pas de télé, rien du tout. Le château, il est perché au-dessus de la vallée, de la Rize. Donc les premières années, ça a été un petit peu des installations sommaires. Et puis au fil des ans, les cabanes sont devenues de plus en plus costauds, etc., mieux équipées. On a vu les progrès qu'il y a eu en 20 ans, tout ce qui est matériel solaire et tout ça. Et même maintenant, il y a des petites ampoules là, de 2 watts qui éclairent super bien. Qu'avant, il fallait les gros trucs qui éclairent rien du tout. Enfin bon.
Et les cabanes d'Ariège, finalement, le lien, il se fait tout seul avec les cabanes du Tarn-et-Garonne. T'as changé de département, mais t'as pas abandonné l'idée de cabane.
Non, j'ai pas du tout abandonné l'idée de cabane. Et le changement de département, en fait, c'est-à-dire qu'au bout de quelques années de solitude relative dans cette espèce de lieu magique, là, y a une fille qui est venue me dévoyer, carrément, et j'ai décidé de quitter l'endroit pour aller dans le Tarn-et-Garonne. Voilà. Et j'ai une petite fille qui s'appelle Elisa maintenant, qui a 10 ans. Et donc j'ai cherché aussi un endroit qui ressemblait un peu à l'Ariège, parce que j'aimais bien le côté rocher, le côté buis, les buis, l'odeur du buis, tout ça. Et puis j'ai découvert Saint-Antonin et j'ai trouvé que c'était vraiment un endroit qui me convenait.
Et puis autant le château de Durban domine la vallée de la Rize, autant tu t'es installé sur le Causse et finalement tu domines la vallée de l'Aveyron et Saint-Antonin.
Oui, enfin je domine rien du tout.
C'est tout ce qu'on dit.
Mais par contre, j'ai le dominé un peu aujourd'hui.
T'as le dominé?
Ah, légèrement.
C'est de trop te baisser vers
la chaise. C'est les tiges métalliques de la chaise là, qui sont un peu raides. Je vais me remettre bien en face du micro. Voilà.
C'est un appel du pied de nos invités pour changer le mobilier à CFM Kielus qui veut l'entendre longtemps. Merci Frédéric. Et alors, une fois arrivé à Saint-Antonin, sur cet espace, on va dire que c'est l'espace qui domine et non pas toi, du coup, c'est quand même, c'est une terre aride, c'est du caillou, il y a des buis, des genévriers qui poussent là, on va dire pas grand chose de plus, pas grand chose de plus qui soit grand, des chênes quand même, il me semble,
il y a des beaux endroits avec des gros chênes.
Ouais. Et toi, tu t'installes
gros
là,
érables.
Ouais. Tu fais ta cabane, tu vis dans ta cabane dans un endroit où t'as de l'électricité?
Eh ben oui,
t'as de l'eau?
Oui, bien sûr, j'ai
de l'eau. T'as du confort, t'as la télé?
Ben ouais, non, la télé pas vraiment, c'est pas utile, ça sert à rien. Ben arrivé à Saint-Antonin, j'ai découvert ce terrain, je me suis dit ce serait bien pour faire les jardins, parce que j'avais quand même envie de faire du... avec la formation de plantes médicinales que j'avais fait précédemment. Je me suis dit, il faut que je retrouve un endroit où je puisse cultiver quelque chose et puis essayer de connaître un peu le système de fonctionnement, de formation de l'humus, toutes ces choses-là qui sont un petit peu mystérieuses. Donc, ce jardin, que j'ai commencé à faire un espace de 3000 mètres carrés environ, uniquement avec des plantes aromatiques qui résistent à la sécheresse parce que j'avais pas d'eau. Il n'y avait pas de sol non plus, parce que sur le Causse, là, on doit avoir peut-être 20 cm de terre avec des petits cailloux. Et puis en dessous, il y a une espèce de dalle calcaire. On ne peut pas passer la baramine.
Quand elle affleure pas le sol.
Voilà, c'est ça. J'ai réussi à planter quelques arbres, mais il faut passer du temps avec la baramine à chercher où est-ce qu'il y a un trou.
Pour que les racines puissent passer.
Bah voilà.
C'est-à-dire que tu avais connu ou découvert la nature et ses plantes par l'entremise de ton grand-père qui, lui, les cueillait et les glanait dans la nature. Mmh. Et toi, tu ne te contentes pas d'aller les quérir en nature, tu vas les faire pousser.
Eh bien, oui, bien sûr, celles qui veulent pousser, je les fais pousser, oui.
Alors, tu les fais pousser et une fois qu'elles sont poussées, tu es content?
Oui, je suis drôlement content.
Et t'en fais quelque chose?
Ah ben, oui, alors. Ouais, disons qu'il y a aussi mon père dans l'histoire qui lui m'a donné les bouquins, les flores. J'ai des vieilles flores qui sont ses livres à lui, qu'on coloriait, des flores en noir et blanc que je m'amusais à colorier quand j'étais gamin avec des crayons de couleur.
C'était écrit si la fleur était rouge ou bleue, parce que...
Ah ben, c'est parce que moi je la voyais, la fleur. Je trouvais la fleur. Quand je trouvais la fleur rouge, je la cherchais dans la fleur et je la coloriais de la couleur que j'avais le modèle à côté, quoi.
Ah, c'est super, ça.
Ouais, je sais pas si c'est bien exprimé, la couleur que j'avais de croc à côté. Ça, c'est pas bon du tout, oui.
Non, mais on voit que t'as été maître d'école. Donc, quand tu trouvais la plante dans la nature, finalement, tu pouvais, dans la flore, compléter ses couleurs.
Exactement. Ouais, au fur et à mesure que je découvrais les nouvelles fleurs et tout ça. Donc, après, j'ai eu comme une mémoire intuitive des noms des plantes et tout ça. Ça m'a permis. Quand je vois une fleur, j'ai un nom qui me vient à la tête, à l'esprit. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà.
Ça, c'est les graines qu'a semé ton grand-père.
Oui, ouais. Ouais, sûrement, ouais. Ouais. Et puis après, donc, pour reprendre un peu le fil là, des plantes qui poussent, là, puisqu'on a parlé de pousser, il ne faudrait pas pousser quand même. Après, sur le premier jardin qui est installé, il y a aussi des plantes médicinales qui, elles, sont plus sensibles à la sécheresse et tout ça. Donc, c'est un petit terrain qui sert d'expérimentation avec les jeunes qui viennent en formation. Donc on l'utilise pour faire des buttes, c'est-à-dire des systèmes de buts sandwich, ou bien rajouter du bois en profondeur pour garder l'humidité, des techniques particulières qui sont adaptées aux cousses pour éviter d'arroser, d'utiliser de l'eau.
Mais bon, l'eau, quand même, tu te débrouilles pour en trouver. Il en tombe de l'eau.
Ah ben oui, il en tombe. Mais je crois qu'il n'y a pas très longtemps, il en est tombé un bon paquet.
Ouais, on a eu ce qu'il fallait. On a eu l'eau, on a eu le vent.
Bon, il y a des citernes, terrible. En fait. Le premier truc que j'ai fait, c'est installer des citernes de récupération d'eau de pluie. Donc, il y a environ une quinzaine de mètres cubes d'eau qui est disponible pour le potager et l'arrosage en permanence, plus des citernes que j'ai trouvées, qui étaient enterrées, que j'ai découvert grâce aux traces d'animaux.
Et là, on précise, ce sont des citernes naturelles, ce ne sont pas des grands bacs en plastique qui ont été enterrés préalablement.
Non, c'est des citernes en pierre sèche, donc qui se remplissent uniquement par les eaux de ruissellement qui coulent sur la surface et qui vont se mettre dans ce réservoir. C'est des citernes très anciennes aussi, hein. C'est un petit peu la forme d'une bouteille, en fait. Il y a le goulot, ça correspond... Le goulot de la bouteille, c'est le puits, la partie visible. Voilà. Et puis dessous, ça a un peu une forme évasée, circulaire en général, en pierre sèche. Donc ça se remplit, mais ça se vide aussi très vite.
Et tu sais de quand est-ce qu'elles datent ces constructions de citernes là sur le causse de Saint-Antonin ou...
Oui, par exemple, la citerne que j'ai trouvée, tout au fond, il y avait une plaque avec une inscription. Cette citerne a été construite en l'an 1022 de notre ère, voilà, c'est tout.
Non.
Mais non, c'est pas vrai. Je sais pas quand ça date, évidemment.
Non, mais ça veut dire qu'il y en a quand même... Et ça date quand même de l'époque de la baramine, parce que tu viens de nous expliquer qu'on est que sur du caillou.
C'est bien plus ancien. Ah oui, c'est plus ancien.
Et ils ont quand même eu le courage d'aller creuser, d'aller faire un trou et d'aller... on ne peut pas dire maçonner, mais enfin si, c'est élevé quand même, même si c'est en pierre sèche.
C'est des murs, oui.
Des murs pour contenir l'eau de ruissellement.
Oui, mais ça, c'est une citerne qui a été installée déjà dans un creux naturel, argileux, avec un fond argileux. Donc, on peut dire que c'est une espèce de petite doline, de mini-doline, c'est-à-dire d'effondrement, puisque c'est un massif karstique, c'est ça, très calcaire, avec c'est du gruyère, en fait, le cause quelque chose comme ça.
Carrément. Hein.
Donc, dans un des trous du gruyère, ils ont installé une citerne. Le trou était sans doute là, à l'origine, ouais.
Donc, finalement, utiliser la nature, avec ce qu'elle nous offre. Là, il y a une doline, il y a un trou, il y a une couche d'argile. C'est ici qu'on peut récupérer l'eau par ruissellement.
Ouais.
Ça me fait penser au nom d'une personne que tu cites dans la petite bio que tu m'as envoyée sur ton papier chiffonné. Il y a trois points de suspension après le mot jardin, et puis il y a deux prénoms. Deux prénoms qui forment finalement le prénom et le nom d'une personne, d'un écrivain, pas seulement écrivain, jardinier, et certainement aussi plein d'autres choses. D'ailleurs, ce monsieur-là, c'est Gilles Clément. Alors, tu parlais d'intuition tout à l'heure, je crois. Je me suis sentie assez proche de tout ce qu'il a pu écrire, finalement, parce que je suis allée glaner des informations sur ce monsieur, mais je ne connaissais pas son nom. Tu peux nous en dire deux mots? Et à quel point, peut-être, il a compté pour toi, pour que tu le signales de cette façon?
Ouais. Eh bien, quand je suis allé dans le Tarn-et-Garonne, en fait, je me suis retrouvé à faire des métiers d'extérieur, du genre taille des pommiers dans les grandes entreprises, l'hiver, etc., des trucs un peu hard au début, et puis après ça, travailler chez un pépinière, et puis en faisant ce travail de pépinière, moi j'étais pas du tout à l'aise avec la façon d'envisager le travail, enfin c'était un peu n'importe quoi, des plantes qui viennent de l'autre bout du monde, du terreau qui vient de Roumanie, enfin etc., pour avoir les prix les plus bas, toujours les plus bas, etc., donc ça finit par faire un travail très bas, pas très intéressant du coup. Et puis j'ai découvert Gilles Clément parce que c'était le premier qui disait que fallait faire avec la nature et pas contre. Aller dans le sens, ça sert à rien de dépenser de l'énergie pour lutter contre quelque chose. Et c'est aussi bien au niveau des jardins que dans la vie quotidienne aussi. Il y a une façon de se mettre dans le courant. Dans un courant qui économise beaucoup d'énergie. Tiens, c'est marrant, courant, ça marche bien. C'est un courant alternatif, on va dire.
Du coup, c'est une philosophie du jardin, de la vie avec la nature, que toi, tu agrandis, que tu étires vers toutes les façons de vivre que tu veux mettre en place.
Voilà. C'est le jardin en mouvement, Gilles Clément. C'est le jardin planétaire, c'est le tiers paysage. Tous les délaissés, tous les endroits, les ronds-points, les ruines en ville ou les choses comme ça, où les plantes viennent s'installer, de nouvelles fleurs, voilà.
Il dit que ce sont les réservoirs de la biodiversité. Voilà. À découvrir, vous trouverez tous les textes en tapant Gilles Clément. C'est une mine.
Ouais, très bien. Voilà.
encore aimer, et puis encore aimer. De chaque seconde profiter, exister.
Chaque seconde,
train,
chaque seconde,
résister. Visiter les plus lointaines contrées, mais aussi tes moindres pensées. M'enivrer de parfums, de saveurs, me confronter à mes peurs. En clair, ma vie, je la veux féconde. Hey, pas à chaque heure, à chaque seconde, faut que ça se régale. Tant que je suis debout et que je crève pas la dalle, faut que ça se régale, faut que ça se régale, faut que ça se régale. Tant que je suis debout et que je crève pas la dalle, faut que ça se régale, faut que ça se régale. Avec la vie, je me lance en quête de sens. La tête m'en tourne et tu m'envoies à dire. Je veux le soleil même en pleine nuit. Je veux la pleine lune à midi. Je veux l'impossible. Chaque jour de ma vie, faut que ça se régale. Tant que je suis debout et que je crève pas la dalle, faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Tant que je suis debout et que je crève pas la dalle, faut que ça se régale. Ça se régale. Hey, de chaque seconde profiter,
chaque seconde,
exister.
Chaque seconde,
au train, train,
chaque seconde,
résister. Ça se régale. Tant que je suis debout et que je crève pas la dalle, faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Tant que je suis debout et que je crève pas la dalle, faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Chaque seconde. Deviennent vérité, vivre l'essentiel et les futilités, côtoyer de près la liberté. Car si le bonheur est un banquet, je veux faire partie des invités, me protéger et de tout regret, faut que ça se régale. Tant que je suis debout et que je crève pas la dalle, faut que ça se régale, faut que ça se régale, faut que ça se régale. Tant que je suis debout et que je crève pas la dalle, faut que ça se régale, faut que ça se régale. Bonjour, bonjour. Il y a de la joie.
Et sous les arbres, toujours sur CFM, toujours et avec Frédéric Blondeau.
Et oui, il paraît, oui, je sais pas.
Là, tu sais, Frédéric, il faut que tu nous dises c'est quoi qu'on vient d'écouter à la radio.
Ah, oui, c'est vrai, bah là, c'est un morceau de Sinsemilla, là, faut qu'on se régale. Je trouve que c'est bien d'essayer de, dans la vie d'être attentif à la jubilation.
On parlait justement de philosophie de vie.
Mmh. Oui.
Tous les matins, tu te réveilles en te disant. Qu'est-ce qui va me régaler aujourd'hui?
Oui, en général, c'est un bon café avec une tartine de beurre, c'est simple. Un petit sucre, ce qui me régale déjà en premier. Voilà, et puis le fait d'être dehors, voilà, aller faire un petit tour aux toilettes sèches, voir le soleil se lever. Voilà.
Ouvrir les yeux sur ton jardin.
Ouais, voilà.
Sur ces plantes qui poussent à travers le caillou.
Ouais,
ouais.
Ouais. Après, il y a plusieurs jardins. Il y a ce jardin donc de plantes aromatiques qui se trouve sur le Causse même, qui est vraiment un jardin un peu expérimental aussi, qui sert donc aux stagiaires à tester des conditions extrêmes, sans eau, sans terre, etc. D'essayer de trouver des combines de cultures.
Précise-nous d'où ils viennent là, ces stagiaires.
Eh bien, du centre de formation agricole qui est à Monteil, entre Najac et Villefranche.
D'accord.
Où il y a une section plantes médicinales aromatiques. Voilà, donc
c'est toujours une bonne information, voilà. C'est chouette.
Et j'y donne des cours de temps en temps, une fois par mois ou deux fois par mois, ça dépend.
Ah, il est là, le lien entre l'école et la flore.
Bah oui. Donc, c'est une modeste expérience que j'essaye de transmettre à ceux qui veulent commencer dans la culture des plantes médicinales. Voilà. Donc, c'est une formation qui dure 6 mois, 6-8 mois, ça dépend des modules. Et puis, ça permet de s'installer. Donc, déjà, depuis 4-5 ans, il y a eu pas mal de jeunes qui sont sortis de là-dedans. Enfin, quand je dis jeunes, ça va de 25 à 45 ans, en gros.
Quoi. Ouais, ça pourrait être moi.
Formation pour adultes.
Non, mais t'es en train de dire qu'en 6 mois, on peut avoir une formation sur les plantes médicinales.
Oui.
Ça veut dire savoir les faire pousser, les comprendre pour trouver leur meilleur environnement pour qu'elles se développent, et puis savoir quoi en faire.
Oui, alors c'est pas tout ça en 6 mois. En
D'accord.
6 mois, c'est les techniques de production, principalement. Donc savoir comment les faire pousser, oui, voilà. Après, essayer de connaître les plantes. Donc il y a toute une approche sur la botanique, pour savoir comment elles se nomment, quelles sont leurs propriétés médicinales, etc., etc. Il y a tout un aspect comme ça aussi dans cette formation. Voilà, et puis après, c'est à chacun de se compléter. L'important, c'est de partir sur le terrain et puis d'expérimenter. Après, on trouve toujours des formations si on veut compléter telle ou telle, telle ou telle chose qui nous manque, on trouve toujours.
Alors ça, c'est ton premier jardin, le jardin sur le Causse.
Oui.
Et alors, ça veut dire qu'il y en a d'autres?
Eh ben oui, il y en a d'autres. En fait, quand je fais visiter les jardins, je commence d'abord par faire visiter le sous-bois, la forêt, qui pour moi est le premier des jardins. Donc, un peu dans l'esprit d'aménagement des friches, parce que c'était, quand je suis arrivé sur ce terrain, c'est le maquis, c'est un peu piquant. Hein. Il y a quand même pas mal de genévriers, comme tu dis, des églantiers.
Des fragons. Tout ce qui pique.
Des prunelliers. Il y a tout ce qu'il faut pour bien se contaminer, si on veut, mais enfin, on fait attention en général. Et puis, j'ai repris les sentiers d'animaux qui étaient là, qui étaient les seuls qui avaient conservé les passages. En reprenant les sentiers d'animaux, j'ai retrouvé des points d'eau, etc. Donc, ce sont des sentiers qui sont, comment dire, mouvants. C'est-à-dire, ils gardent pas les mêmes tracés, mais ils vont toujours d'un même point à un même point. Voilà. Après, le tracé change en fonction du buisson qui pousse un peu beaucoup, et puis le chemin contourne le buisson. Le chemin coupe pas le buisson en deux, comme on fait dans les parcs et jardins d'habitude. On coupe le buisson pour passer tout droit, on ne fait pas le tour au fur et à mesure que le buisson pousse. Voilà. Donc la modification des cheminements, c'est aussi éviter d'aller dans les habitudes, d'être toujours sur un chemin droit, tracé, comme quand on voit, je crois que c'est comment il s'appelle, mon oncle de Tati, voilà. Ouais. Cette superbe maison avec cet itinéraire obligé pour aller du portail de la maison à l'intérieur de la maison, une espèce de zigzag continu, voilà, mais qui va rester pendant 10 ans parce que c'est du béton, donc forcément on fait toujours le même trajet quand on part le matin pour aller à son boulot, quand on rentre chez soi à son boulot.
Oui, le statique est pas forcément linéaire, effectivement.
Oui, il peut être complètement tordu. Je pense qu'en ville il y a beaucoup de trucs qui sont tordus au niveau des déplacements.
Et du coup, toi, tu as apprivoisé, par exemple, ce sous-bois dont tu nous parles. Tu nous dis, c'est peut-être le premier des jardins, en l'observant. Et en observant comment d'autres avant toi, mais peut-être, évidemment, encore plus proche de la nature, parce que complètement en appartenance à la nature, les animaux, comment est-ce que eux, ils l'ont, comment ils y vivent?
Voilà.
Finalement, tu fais pareil.
Eh bien, oui. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans le sous-bois, c'est toute la préparation, comment la forêt, un petit peu, c'est un peu l'apogée d'une végétation, on va dire, dans le chemin si on laisse une prairie, par exemple, elle va devenir une petite friche. Après la friche, des arbres vont pousser, protégés par les épineux, justement. Ces grands arbres qui pousseront vont étouffer les petits en dessous, et puis ça va devenir un sous-bois. C'est un chemin normal. Hein. C'est le contraire de l'entrée. l'entropie, c'est je sais pas comment ça s'appelle, c'est le contraire.
Mais t'expliques super bien, on n'a pas besoin de savoir le vrai grand nom.
Donc ça, c'est un jardin, il suffit de regarder. Donc après, moi, les sous-bois, je les ai aménagés, j'ai repris les chemins juste qui étaient existants, j'en ai rajouté peut-être un ou deux. Et voilà, ça c'est le deuxième jardin qu'on peut visiter, c'est de comprendre comment fonctionne l'humus, comment la matière végétale qui descend des arbres se décompose, et quand on met la main dans la mousse, comment on trouve cette terre noire qui est fertile.
C'est ça, parce que si on laisse justement la nature faire avec ce cheminement dont tu nous parles, le buisson, l'arbre, c'est lui qui va aussi venir nourrir la terre, parce qu'on va avoir la chute des feuilles, la création.
Donc c'est les constats qu'on peut avec lesquels on peut tirer quelques règles qu'on retrouve en permaculture ou bien quand on fait du paillage, par exemple, tout simplement, quand on paille son jardin, et bien c'est ce qu'on fait, on couvre. Et le couvert végétal se décompose, donc crée de la matière organique et de la nourriture pour le sol. Voilà, parce qu'il faut nourrir le sol, on nourrit pas les plantes vraiment. En fait, on nourrit d'abord le sol, parce qu'il y a plein de petites bêtes là-dedans qui décomposent tout ça, qui font tout le travail à notre place. Il suffit de regarder. Il faut les encourager, il faut les stimuler. Bon, il y a plein de façons de stimuler la vie du sol. Et une fois que la vie du sol est bien installée, et bien les plantes elles vont trouver toute la nourriture qui leur convient. Voilà, dans les trous des vers, dans les anciennes racines qui ont pourri, il y a déjà des chemins tout prêts pour elles, où on peut remettre les racines dans les grottes, on peut imaginer ça comme des grottes.
C'est une question de bon sens, hein. Il suffit de regarder la nature avec bon sens et finalement ça semble clair, c'est limpide.
C'est sûr, oui, c'est le bon sens près de chez nous.
Et quand tu... Il est terrible. Et quand tu parles de nourrir le sol, moi effectivement je me suis promenée dans ton sous-bois il n'y a pas si longtemps que ça, je suis passée samedi je crois, je suis passée le mardi d'avant, et là il y a une courge qui pousse, mais au milieu des arbres là comme ça, au milieu de la forêt, et quand tu parles de nourrir le sol, c'est aussi ce qui va revenir au sol, des plantes que tu as fait pousser ou qui ont poussé là comme ça, que tu as consommé donc avec le compost.
Oui. Tout retourne au sol. Là, après, à l'automne, on balaye les chemins. C'est toujours sympa de balayer les chemins. Ça permet de faire des énormes tas de feuilles, de bois.
Sur les bords du chemin.
En général, c'est regroupé. Pour qu'un compost fonctionne, il faut qu'il ait une certaine masse pour que ça puisse chauffer à l'intérieur. Donc, on peut pas faire des petits tas de compost de 20 cm d'eau. Ça marcherait pas. Faut moins que ça fasse un bon mètre de haut sur un mètre de large. Déjà, ça permet de chauffer un petit peu. Donc là, il y a une bonne décomposition qui se produit à ce moment-là. Et donc après les jardins, donc il y a un autre jardin que j'ai créé dans une doline, c'est-à-dire une doline, c'est un effondrement karstique, on va dire.
Ça c'est pour ceux qui n'ont pas bien suivi la première fois la doline.
La doline, en plus c'est un joli mot, la doline. Non,
c'est tout doux.
C'est tout doux. Donc là c'est un endroit plus abrité avec beaucoup de terre en général parce que c'est cultivé depuis très longtemps. Ça servait pour les cultures de champs de chanvre entre autres. Je sais que dans la région ils ont cultivé beaucoup, mais aussi pour les cultures maraîchères. Et là il y a de la profondeur de terre, donc ce qui me permet de faire le souci, la menthe, etc. La mélisse, toutes les plantes qui ont besoin de profondeur de terre qui vont pas pouvoir tenir sur le cos, c'est trop dur pour elles. Voilà, donc ça fait un troisième jardin. Et puis le quatrième jardin, c'est un jardin potager, tout simplement, avec des légumes. Et puis des gros pieds mères aussi, j'ai mis tous mes pieds. Et les pieds mères, c'est les pieds de plantes aromatiques qui vont servir à faire des boutures, des choses comme ça. Donc toutes les plantes que je récupère et que j'ai envie de conserver dans de bonnes conditions, je les mets dans le potager, parce que là je sais que j'ai de la bonne terre, j'ai du terreau, j'ai de l'eau pour arroser, donc là elles sont en sécurité. Voilà, et après je les multiplie et puis je les transplante. Voilà.
Et puis, je ne sais pas si on réussira à faire dire à Fred qu'après les avoir conservés, gardés, collectés, transplantés, fait pousser, grandir, eh ben, il finit par les amener sur les marchés. Sacré nom d'une pipe, oui ou non ?
Saperlipopette, pas vraiment. Ça fait longtemps que j'avais pas dit saperlipopette, tiens. On va bien dire aussi sapristi. C'est-à-dire que j'ai pas une grosse production et comme j'ai beaucoup de travail à côté, parce que je continue à travailler dans les parcs et jardins quand même pour gagner ma vie, il y a les cours que je donne au CFA, donc mon temps est quand même limité au niveau de la production des plantes médicinales. Mais nonobstant tout ça, je peux quand même faire quelques marchés, entre autres celui de Saint-Antonin, mais plutôt au mois de novembre. Quand les gens sont un peu malades, là, on peut vendre plus facilement des plantes médicinales. Et alors, ce qui est bien, c'est aussi le mois de février-mars, quand il fait très humide, que tout le monde a des rhumes et tout ça, c'est bien aussi, ça. Une bonne période pour vendre des plantes. Après, en été, c'est pas nécessaire.
La vie d'ici, la vie est là d'ici bas. Elle débat et batterie les premiers pas danser à devant les écoliers. Balancer dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'est tiré, risé mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques et pocs aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dans des mots doux, on dit désir ici, efficace est à passer. Sur ton accordéon, tu touches à tout, j'ai voulu passer là, j'ai là du bout des doigts. Donc si nous songeons, si tu médites, des fois tu fasses suffire, maman, une note cassée. Cassée, on n'allait plus jamais dans la scène. La musique a fini, mais la dégivigue est fine, là-bas, sans balader, casser la balade dans l'horizon. Sur ton accordéon, tu touches à tout, j'ai voulu passer là, j'ai là du bout des doigts. Donc si nous songeons, si tu médites, des fois tu fasses suffire, maman, une note cassée. Cassée, on n'allait plus jamais dans la scène. La musique a fini, mais la dégivigue est fine, là-bas, sans balader, casser la balade dans l'horizon. S'il va lui battre la vie ça va, tu l'as dit. Au bal aussi, c'est là que t'as tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y, l'évasif, vas-y, l'enfant, tout petit déjà. Jadis, on l'a dit, mais il y a la question, comme t'es oublié, la passe, Koumako. Et si c'était dommage, pas si c'est un hommage. Aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, dis donc, dans des mots doux, on dit désir ici, efficace est à passer. Et si loneliness disparaît tout l'engage, t'andrai comme bec, qu'un désir ambitieuse, assurément libère, tout est l'animal sauvage, la cause, comme t'es la hate, t'as beau voir, tu que truc, tu que traque, tu que toque, tu que riga, tu que raga, tu que rigo, ragunana, bebe mille ou cap, petit cabourut, en fait. Tu que truc, tu que taca, tu que toca, tu que riga, tu que raga, tu que rigo, ragunana, bebe mille ou cap, ça se vit, vite à l'hésitation qui va faire éclater le bar des ateliers. Balancer dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond de nuit d'abus du soufflé, il s'est tiré, c'est bon, c'est le temps du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques et pocs aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dans des mots doux, du désir ici, efficace est avant, passez, si toi tu dois ton droit.
Bilangué sous les arbres. Dernière ligne droite sur CFM pour écouter encore Frédéric Blondeau et rêver avec lui de toutes ces petites plantations. Ben moi, j'aimerais y être, quoi. J'aimerais faire ça. Je vais regarder mon jardin encore autrement en rentrant chez moi, là, tout à l'heure, Frédéric. En novembre, on te trouve... Ah non, non, non. D'abord, faut que tu nous dises ce qu'on a écouté. Ah ouais, c'est la règle.
Ah oui, ben, ce qu'on a écouté, ben, c'est notre ami Maviel.
Oui.
Voilà, qui chante sa petite chanson. Je sais plus comment c'est le titre, déjà. La valse à l'envers, ouais, c'est ça. Valse à l'envers. Ben, c'est très bien, parce que, en plus, je trouve que là, le jazz, l'accordéon et tout ça, ça fait un super mélange. En plus, Lubat et toute la bande, allez, tout ça, Uzeste. Pas de problème, c'est un bon endroit.
Ça va nous permettre de faire un lien presque tout de suite avec ce qui se passe désormais chaque mardi chez toi sur ton terrain. Mais juste avant, on se le redit. en novembre, si on a la gorge qui gratte, et puis après, en mars-avril, quand c'est le printemps et qu'on a le rhume qui arrive, on peut venir sur le marché de Saint-Antonin-Nobleval. On te trouvera là, en haut de la Grand Rue.
Ouais, voilà.
Je sais pas comment elle s'appelle, mais moi, je t'y ai vu déjà.
Des endroits où je suis placé, ça dépend des circonstances. Mais en général, oui, on peut m'y trouver là. Et puis sinon, je vends aussi des plantes à la foire aux plantes, mais celle de Sept-Fonds, qui est au printemps, celle de Saint-Antonin, celle de Quélus. Quoique la météo cette année m'a un peu empêché d'y aller. Et puis, à l'automne aussi, je crois, le 15 octobre, dans ces eaux-là, à Saint-Antonin, il y a aussi un marché de plantes, une foire aux plantes. Ça s'appelle comme ça, le foyer aux plantes.
Et là, tu vas nous conseiller, tu vas nous dire, c'est là que ça gratte, c'est là que ça pique, c'est cette plante-là qu'il faudrait que tu prennes.
C'est laxatif, j'ai oublié, c'est laxatif.
C'est laxatif. C'est cette plante-là que tu vas prendre en tisane, trois fois par jour. Tu nous fais des remèdes de sorcières.
Je peux pas, sur un lieu de service public, dire que j'ai le droit de donner des conseils. C'est interdit.
D'accord. En tant donc, t'essayes de nous vendre
le métier
trucs,
d'herboriste en France a été squeezé depuis les années 40, sous Pétain, par l'ordre des pharmaciens. Donc, on dit rien. Voilà. On cueille juste des plantes, on les fait sécher, on les met en sachet. Et après, vous vous débrouillez.
On les boit parce que ça a bon goût. Et puis, t'as tes vieilles flores, et nous, on a tous, quelque part, c'est pas encore interdit à la vente, notre petite pharmacie du bon Dieu,
voilà.
Qui nous dit qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver.
Il y a
trouver,
plein de sources de renseignements un peu partout, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de discours pour savoir comment utiliser ces plantes. Non, après, j'aurais voulu aussi parler du syndicat des simples, puisque c'est un syndicat de producteurs de plantes médicinales. Dont je fais partie, que je connais depuis l'Ariège, justement, c'est des connaissances. C'est un syndicat qui regroupe une centaine, 150 producteurs de plantes médicinales un peu partout en France, donc dans les massifs de montagne principalement, mais il y en a aussi en Bretagne. Et il y a des montagnes en Bretagne, hein, les Mandarins, entre autres.
Oui.
Ah, tiens. Et voilà, et donc c'est un syndicat très dynamique en faisant un petit peu de lobbying auprès de l'UNESCO, on souhaiterait aussi que tous les savoirs populaires, ainsi que l'usage des plantes médicinales, fassent partie du patrimoine mondial de l'humanité, de façon à ce que ce soit plus des connaissances sur lesquelles on puisse mettre des brevets. Voilà.
Absolument.
Entre autres.
Et puis que ça puisse être reconnu.
Mais oui. L'usage est fait depuis des milliers d'années, et c'est une expérience commune de l'humanité, donc ça appartient à tout le monde. Ça appartient pas à des pharmaciens ou à je ne sais qui d'autre.
Et pour en savoir un peu plus sur ce syndicat des simples, on peut aussi aller glaner des informations sur l'internet. J'y renvoie souvent forcément, mais c'est vrai que ça permet de voir les actualités, les choses qui sont organisées un petit peu partout en France.
Ouais. Tous les ans, il y a une grosse fête qui se passe cette année, qui va se passer du côté de Limoges, dans ces eaux-là. Je suis pas encore tout à fait au courant du lieu, mais c'est, faut regarder sur le site. Voilà. Ça s'écrit simple, c'est pas compliqué.
C'est ça. Et puis, sur la page de Bilingue et sur les arbres, on pourra mettre aussi ces informations-là. Un lien vers le château de Durban pour ceux qui veulent le visiter, vers le syndicat des simples. Et chose promise, chose due, depuis le début de l'émission, on passe, on évoque, on dit quelques mots sur ce merveilleux rendez-vous que tu nous proposes, pas toi tout seul, mais avec Francis, chaque mardi, sur le terrain, là-haut, sur le Causse, au-dessus de Saint-Antonin-Nobleval.
Ouais.
Alors ça, c'est pas secret, on peut en parler, on peut inviter tout le monde.
On peut en parler quand même.
Il y a quand même des conditions, vous avez peut-être une charte, là, qui c'est qui vient à cet endroit-là
C'est simple, c'est-à-dire que la bergerie, c'est une pièce rectangulaire, en fait, en pierre sèche pour l'instant. Donc, dans le fond, est installée une scène avec une sono, il y a une batterie à disposition, des guitares, du matériel, et puis on s'est dit, tiens, ce serait chouette si on propose aux musiciens qui ont envie de venir de faire de l'improvisation, juste comme ça. Pas jouer de répertoire, mais juste démarrer sur un petit rythme de batterie, puis tout d'un coup il y a un deuxième musicien qui s'installe, puis un troisième, puis un quatrième, et puis il y a toujours des spectateurs qui sont là pour encourager tout le monde. Donc on arrive vers 18h30, quelque chose comme ça, avec son pique-nique dans le sac à dos. Et puis voilà, ça permet de passer des bonnes soirées, de découvrir plein de musiciens qu'il y a dans le secteur qui sont doués, vraiment. Et de passer des bons moments aussi. Alors, pour l'instant, c'est le mardi, mais ça va changer au vendredi.
Alors j'allais dire, avant c'était le vendredi et ça a changé au mardi.
Ouais.
Mais maintenant c'est le mardi et ça va à nouveau changer au vendredi.
Voilà.
Et on fait comment pour savoir si c'est le mardi ou on vient les deux jours?
On peut passer quand on veut, de toute façon, se renseigner sur place, c'est mieux. Ou passer un coup de fil, je sais pas.
Alors moi, pour y être allé comme ça, sur une invitation impromptue. Ah, alors là, il y a notre technicien Joanne qui dit « Vous n'avez pas donné toutes les infos, c'est à quel numéro ?» Alors là, je me tourne vers toi, Fred, t'as un numéro, toi ? On explique comment on fait pour viendre.
Bah, un numéro, non, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
C'est sur la route entre Montricou et Saint-Antonin, là-haut, voilà. Celle du Causse.
Ouais.
Quand on vient de Saint-Antonin,
ouais.
On va repérer, s'il ne fait pas encore nuit, sur la gauche, une petite construction, ça c'est dans ton jardin d'expérimentation. Puis à côté il y a la bergerie, mais on la voit pas beaucoup.
Ouais.
Mais il y a un petit panneau, spot musique au jardin.
Oui, normalement il y a le panneau que la tempête a fait voler. Je sais pas où il est passé, d'ailleurs il s'est envolé. Mais...
Bon, on va le refaire d'ici mardi
pour
pouvoir
trouver.
De toute
façon, à partir du carrefour de Saint-Antonin à Casal, c'est à 500 mètres du carrefour, quoi, en direction de Casal. Facile à trouver.
C'est facile à trouver.
Voilà.
C'est facile à trouver. Moi, j'ai trouvé. Et puis, alors, je peux témoigner avec une histoire de musicienne, évidemment, mais pas forcément pour laquelle c'est facile de sortir du répertoire pour pouvoir improviser. J'y ai trouvé des gens vraiment amoureux de la musique, qui faisaient ça pour le plaisir. Beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance, et tout le monde réussit à trouver sa place. Et le mot d'ordre, c'était même peut-être « T'as jamais fait de batterie ? Vas-y. »
Vas-y, vas-y, ouais, essaye.
Et finalement, tu dis, il y a toujours des spectateurs, mais même au-delà des spectateurs,
qui participent,
ils finissent par prendre une percue, taper dans les mains ou chanter au micro.
Ou danser, ou chanter, ça fait partie de la musique, la danse aussi.
Alors c'est le premier rendez-vous qu'on se donne pour tous ceux qui veulent découvrir Frédéric Blondeau, son jardin, les soirées musique au jardin. Merci beaucoup Frédéric.
Ben, merci aussi, hein, et puis à bientôt. Bonnes vacances, tu pars prochainement, non?
Ouais, attends, dans 3 mois, on va enregistrer encore des émissions. Merci, Joanne.
Merci.